Les cages flottantes, suite du chapitre 10. Les dames l'entourèrent. Elles voulaient être au premier rang. On descendit dans la batterie haute. Un silence de mort régnait dans les cages. Les visiteurs, très émus, n'osaient pas prononcer une parole. Et pendant quelques instants, on se regarda, sans bouger, de chaque côté des barreaux. Quand les yeux de ces dames se furent peu à peu habitués à la demi-obscurité qui régnait dans l'entrepont, elles commencèrent de distinguer les détails de l'aménagement sommaire des misérables qui étaient entassés là. « Les pauvres gens !» fit madame d'Artigues. Et les autres aussi s'apitoyèrent. « Les pauvres gens !» Ils demandèrent des détails sur la façon dont ils se couchaient, dont ils mangeaient, et ils voulurent savoir s'ils étaient bien soignés. « Ah, pour sûr qu'on les soigne. Et comment ?» répliqua chérie Bibi. « Est-ce pas que vous êtes bien soignés, vous autres ? Allons, répondez. Y a-t-il quelqu'un qui se plaint ici ?»« Vous voyez, mesdames, ils ne répondent pas. Personne ne se plaint. Ils sont contents. » Et chérie Bibi exhiba ses hommes comme un maître de ménagerie fait l'énumération de ses bêtes, en s'étendant sur leur redoutable qualité. « Allons, avance à l'ordre, toi, bigredouille. Viens ici, 2 milliards. Et Boulatruelle, là-bas, qu'est-ce que tu as à geindre comme ça? T'as des rhumatismes? »
« Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ? » demanda madame d'Artigues.
« Il pleure sa pauvre femme, à laquelle il est arrivé un malheur. »
« Et quoi donc, mon Dieu ? »
Il lui a versé du plomb fondu dans l'oreille.
« Oh, le misérable ! On ne dirait jamais ça à le voir. Regardez, monsieur Dutoucher, comme il a une bonne figure. »
« Pour sûr, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. »
« Je me rappelle avoir lu ce procès-là, » fit remarquer Robert Bourrelier.
« C'est amusant de revoir ici tous ces héros de crime dont les journaux ont rapporté le procès. » « Vous ne trouvez pas, marquis ?»«
Mais certainement, madame. »«
Tout de même, on se les représentait plus féroces, » dit mademoiselle de Valrieux. « C'est drôle, ils n'ont pas l'air méchants, ceux-là. »«
Cet animal n'est pas méchant. Quand on l'attaque, il se défend. »
gronda chérie Bibi en faisant glisser ses hôtes le long des autres cages. Il avait un stick à la main, et en fouettait les barreaux avec bruit, comme font les dompteurs pour exciter les animaux apathiques. « Allons, debout dans les cages. Pouvez pas vous lever, vous autres. Vous voyez bien qu'il y a de la visite. Honneur aux dames. Allons, la veuve, Carmagnolet et mardi soir. »
« Comment dites-vous qu'il s'appelle, celui-là ?»«
Mardi soir. »
« Le drôle de nom, pourquoi ça ?»«
Oh, une histoire comme une autre. » « Probable que tous ces malheurs sont arrivés un mardi soir. »«
Eh bien, et celui-là, savez-vous comment il s'appelle ?»«
Il s'appelle Mange-Dentelle. »«
Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ?»«
Allons, réponds, qu'est-ce que tu as fait ?»«
Je sais pas, mon commandant. »«
Comment tu ne sais pas, avec un nom pareil ? Tu mangeais de la dentelle, parbleu. »« Encore une histoire de contrebande. »« Debout, trousse-vache. » « Celui-là tient son nom de la ruelle Trousse-Vache, où il a commis son premier crime. Il a mangé le nez d'un agent qui en est mort. Pas vrai, Trousse-Vache ?»«
Je sais pas, mon commandant. »«
Comment tu ne sais pas ?» Et chérie Bibi se tourna furieux du côté du sergent des gardes-chourmes.
« C'est extraordinaire, sergent. Vos hommes des cages ne savent rien de rien. À quoi passez-vous donc votre temps ? Faudrait tout de même leur répéter ce qu'ils ont fait. »
« Comment leur faire répéter ce qu'ils ont fait ?»
demanda Robert Bourrelier.
« Ben oui, à seule fin qu'ils ne l'oublient pas et qu'ils soient dévorés par le remords. »«
Ah, celui-là, commandant, celui-là qui hausse les épaules. »«
Quelqu'un ici s'est permis de hausser les épaules ?»
éclata la voix de tonnerre de chérie Bibi. « Sans doute une forte tête. Je ne permets pas aux fortes têtes de hausser les épaules. » Et comme il y eut un léger ricanement à la suite de cette figure de rhétorique un peu risquée, chérie Bibi perdit tout à fait patience.
« Mais qu'est-ce que vous pouvez bien attendre d'une attitude pareille ?
hurla-t-il hors de lui. « Vous voulez sans doute provoquer ma colère. Mille millions de baillards. Tâchez à respecter ce qui est respectable, à vous respecter vous-même si possible, en respectant les personnes honnêtes avec lesquelles vous pouvez avoir l'honneur de vous trouver à bord. Si vous continuez à vous conduire comme ça, qu'est-ce que vous voulez que pensent de vous, messieurs et dames les naufragés ? En voilà assez pour la batterie haute. Descendons maintenant dans la batterie basse. Mais auparavant, je vais vous montrer le cachot de Chéri-Bibi. » Et il fit descendre tout le monde dans le fameux couloir des cachots. D'abord, il alla au cachot où avait été enfermée la comtesse, et il montra le trou par lequel elle s'était échappée avec le célèbre bandit. Ainsi, le concierge du château d'If montre aux visiteurs le souterrain par lequel l'abbé Faria communiquait avec Edmond Dantès. Là était enfermée une misérable reléguée que nous avons pendue depuis, dit-il, et qui avait demandé à accompagner son mari à Nouméa. Vous vous rappelez peut-être, mesdames et messieurs, l'histoire de ce médecin qui découpait des lanières de chair sur ses clients pour les manger. « Oh, l'horreur !» s'exclama madame d'Artigues. « Oui, oui !» firent les deux autres femmes. « C'est encore une histoire qui a été dans tous les journaux. Il est ici, ce médecin-là ? Nous voudrions bien le voir. »«
Mesdames, nous l'avons pendu. »«
Mon Dieu, combien donc en avez-vous pendu, commandant ?»«
Autant qu'il en fallait pour la sécurité de la société, » déclama Chéri-Bibi. Cette femme accompagnait donc son mari. Mais à bord, elle eut l'occasion de voir Chéri-Bibi, et aussitôt elle fut prise pour lui d'un amour insensé. C'est elle qui aida surtout le dévoué Mitron dont je vous parlais tout à l'heure, dans les projets qu'il avait formés pour l'évasion de Chéri-Bibi. Regardez, sieurs et dames, ce cachot. Et maintenant considérez celui-ci. Pas de communication, hein? C'est bien vu, bien entendu. Or, c'est là qu'était Chéri-Bibi, attaché à ses fers et surveillé par deux artoupans. Comment a-t-il pu passer de son cachot dans celui de la dame pour s'enfuir de là par le trou? De la façon la plus simple du monde. Regardez. La dame, qui s'était fait mettre au cachot exprès, sachant qu'il n'y avait plus que celui-là de libre, n'eut, quand elle fut enfermée, qu'à procéder à ce petit exercice. Et Chéri-Bibi se met à dévisser très facilement les boulons qui retenaient une plaque de tôle entre les deux cachots. Ne croyez pas, sieurs et dames, que ce petit ouvrage eût été préparé par quelque malheureux forçat à ses moments perdus. Nullement. Il l'avait été par les soins des artoupans eux-mêmes. Nous appelons artoupans dans la marine les gardes-chiourmes. Le déboulonnage de la tôle par une femme prisonnière qui connaissait déjà le truc pour en avoir usé ne devait pas étonner les deux hommes qui s'ennuyaient à côté dans la garde de Chéri-Bibi. Suivez-moi bien. Les deux gardes se dirent « Tiens, il y a bon !» quand la figure de leur petit ami se montra sous la tôle soulevée. Vous devinez certainement la suite. Le mitron dévoué était derrière le lit de camp de la condamnée, et quand le premier garde-chiourme eut enjambé par ici pour venir jusque-là, à cet endroit que voici, la prisonnière lui jeta, en même temps que ses beaux bras, un petit lacet autour du cou, que serra avec entrain le dévoué Mitron. Étonné de ne point voir revenir son compagnon, le second garde avait enjambé, comme j'ai dit précédemment, et avait eu immédiatement l'explication qu'il cherchait. Il comprit et mourut. Sur quoi le bon Mitron, qui avait eu la précaution de prendre dans la poche du veston du commandant la clé du cadenas, on s'en serait passé si cela avait été nécessaire, croyez-le bien, sieurs et dames, n'eut plus qu'à délivrer Chéri-Bibi, refermer le cadenas, remettre les artoupans en place, reboulonner le panneau, reporter la clé dans la poche du commandant. « Je suis toujours si distrait et préoccupé !» Et le tour était joué. Comment le trouvez-vous, sieurs et dames?
Admirable, ravissant, extraordinaire.
Cet imbécile de commandant Barachon n'en revenait pas, ajouta Chéri-Bibi.
« Mais taisez-vous donc, mon petit commandant !»
fit en riant Carmen de Fontainebleau, câline. « Voulez-vous ne pas dire de mal du commandant Barachon ?»«
C'est vrai, j'oubliais, » grogna Chéri Bibi. « Je ne dois pas le débiner devant son équipage. Mais il y a des moments où je m'en veux, vous savez. Avoir été joué comme ça, il y a de quoi vous tourner les sangs, comme dit ma concierge. »
« Eh bien, maintenant, conduisez-nous à Chéri Bibi. C'est Chéri Bibi qu'il nous faut. »
Ils quittèrent le faux pont pour remonter dans la batterie basse. Et là, ils virent encore d'autres prisonniers. Les dames avouèrent que, cette fois, ils avaient bien d'abominables têtes de forçats.
« En voilà un, tenez, là-bas, »
montrait Nadège de Valrieux, « que je ne voudrais pas rencontrer au coin d'un bois. » Et elle désignait de son doigt tendu le distingué monsieur de Vilaine lui-même. Le brave officier de marine, héros de la plus colossale aventure du monde, faisait en vérité, sur le moment, la plus farouche mine. Obligé de contenir la fureur qui l'animait contre ce monstre de Chéri Bibi, se disant que s'il n'arrivait pas à se dompter, que s'il laissait échapper un mot douteux sur l'étrange situation qui avait renversé leur rôle à tous, il donnerait peut-être le signal d'un massacre général, dont les naufragés qui les visitaient ne seraient pas les dernières victimes. Tel était l'état de cet homme qu'il faut plaindre. Mais le prodigieux effort moral que cet état comportait se traduisait extérieurement par une figure des moins accueillantes, et que Mademoiselle Nadège avait remarqué tout de suite.
« Fille, le vilain !»
lui jeta encore Mademoiselle Carmen de Fontainebleau, et elle demanda
« Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là »
« Celui-là, » répondit Chéri Bibi, « n'a pas fait grand-chose de mal, mais les jurés lui en ont tenu compte tout de même. 20 ans de travaux forcés pour avoir tenté d'assassiner sa belle-mère. » « Regardez-le, et croyez-moi, ce n'est ni l'orgueil, ni un obstiné dédain qui cause son silence. Mais il a le cœur rongé d'un cuisant chagrin, et il regrette l'avoir manqué. »«
C'est vrai qu'ils ont tous l'air mauvais par ici. »«
Mesdames, » prononça Chéri Bibi sentencieux, « nous sommes dans le seul endroit de la terre où l'on peut vraiment juger les gens sur l'air qu'ils ont. »
« Pourquoi donc, commandant ?»«
Parce que le costume de forçat, madame, » gronda la voix terrible de Chéri Bibi, « va merveilleusement bien à tout le monde. » Et il ajouta, se tournant, formidable, du côté de Maxime du Touchet, « qui donc peut se vanter aujourd'hui que le costume de forçat ne lui irait pas ? Le costume de forçat est le seul qui donne à chacun l'air qu'il lui faut. » Et Chéri Bibi, enchanté d'avoir produit son petit effet, passa à une autre cage.
« Mais il est tout à fait ivre, le pauvre homme !»
murmura le marquis dans l'oreille de Madame d'Artigues.
« Je vous avoue, » fit celle-ci, « qu'il m'inquiète un peu. Avez-vous remarqué sa tête, ses yeux quand il vous parle ? C'est singulier, il me semble, que tout cela, qui n'est pas beau à voir, ne m'est pas inconnu. Après tout, j'ai peut-être déjà vu sa figure dans les journaux.
Commandant, commandant, on a déjà publié votre portrait dans les journaux, n'est-ce pas ?
Oui,
répondit Chéri Bibi en tressaillant. On l'a publié à côté de celui de Chéri Bibi quand on a su que c'était moi qui le conduisais à Cayenne. « Tenez, le voilà justement, votre Chéri Bibi. »
Il désignait dans la cage des financiers le commandant Barachon lui-même.
Pauvre, héroïque, excellent commandant qui aurait voulu mourir à la tête des derniers hommes qui lui restaient. Tous ses officiers l'auraient suivi dans la mort. Plutôt se faire massacrer sans espoir que de subir la loi d'un Chéri Bibi. Hélas, sans munitions, il lui avait fallu cesser le combat et se rendre pour sauver la vie de l'équipage. Chéri Bibi lui avait dit « Vous vous êtes conduit comme un brave. Nous n'avons pas à nous plaindre de vous. Vous avez fait pour nous tout ce que vous avez pu. Vous resterez libre à votre bord. » Suprême injure, avoir mérité la reconnaissance d'un chéri Bibi. Il avait réfléchi à sa faiblesse passée et se l'était reproché comme un crime, tout au moins comme une complicité. Lui, plus que tout autre, méritait cette cage, où les méchants avaient fini par enfermer les bons, à la suite peut-être de sa pusillanimité, et il avait exigé qu'on l'y enfermât avec les autres. Et il pensait que si une brute galonnée, comme il avait coutume de dire au beau temps de son rêve humanitaire, eût, dès les premiers jours, cassé la figure de quelques-uns de ses forbans ou les eût envoyés naviguer au haut d'une vergue, le vaisseau de l'État n'aurait point certainement, à cette heure, changé de propriétaire. Abîme sans fond d'une philosophie désemparée, dans laquelle le brave Barachon pataugeait avec autant de difficultés que, là-haut, l'audacieux chéri Bibi, aux prises avec ses nouveaux devoirs, avait pataugé dans la hiérarchie, dans la discipline, dans les exigences d'un nouveau commandement, d'une nouvelle position en un mot, à laquelle la fortune, marâtre jusque-là, ne l'avait pas habitué. Mais quoi, on se fait à tout, et peu à peu les choses à bord reprenaient leur cours. Au fond des cages, les anciens hommes libres commençaient à prendre ces attitudes lasses et traînantes de l'esclavage, où la fierté de la race disparaît et où reparaît l'animalité. Dans les couloirs, les ex-forçats devenus libres relevaient un front autoritaire, et gardiens consciencieux des vaincus apprenaient sans difficulté à se faire obéir. Les heures s'écoulaient comme autrefois dans les entrepôts dont Chéri Bibi, intelligent, avait fait le dernier refuge de la discipline. Sur le pont, dans les carrés, dans les postes d'équipage, partout où pénétrait la gaie lumière du jour, on pouvait rire et s'amuser. Mais c'était à la condition que l'on n'eût rien à craindre d'en bas. La société de Chéri Bibi, comme toutes les autres qui ont dessein de vivre sans fâcheuse surprise, s'était assuré ses derrières. Le même programme qu'autrefois était exécuté avec la même ponctualité, mais avec plus de sévérité, à cause de l'expérience acquise. Au même quart, piqué par le timonier, Barachon voyait apparaître les mêmes rondes d'artoupans venant surveiller la relingue. Et il eût pu croire, le brave commandant, qu'il n'y avait rien de changé à bord, si la relingue, cette fois, ce n'avait pas été lui. « Alors c'est celui-là qu'est Chéri Bibi, celui-là qui a l'air si truffe, là, dans le coin ? Eh bien, vrai, je ne me l'imaginais pas comme ça !» fit Carmen de Fontainebleau. « Moi non plus !» dit Nadège de Vadrieux. « Il m'a l'air bien flappi. Vous ne lui donnez donc pas à manger, mon commandant ?»« Ce n'est pas possible que ce soit là le terrible Chéri Bibi. Il a l'air d'un notaire qui a mal tourné. » Le pauvre commandant Barachon ne tourna même pas la tête. Mais un homme de la cage s'avança jusqu'au barreau. Il avait la figure couverte de linge ensanglanté. Il dit d'une voix ferme, « Moi, je m'appelle Pasco, sergent des surveillants militaires, mis en cage, comme ses camarades, par les forçats qui se sont emparés du Bayard. Quant à celui-là, ajouta-t-il en se tournant vers l'héroïque prisonnier qui s'était levé en entendant Pasco. « Quant à celui-là, il ne s'appelle pas Chéri Bibi, il s'appelle le commandant Barachon. Et Chéri Bibi, le voici !» Et sa main, à travers la grille, montrait le vrai Chéri Bibi, qui éclata de rire. Ce rire fut aussitôt couvert par une explosion de malédictions et d'injures parties de toutes les cages. Les bagnes semblaient être entrées en une seconde en révolution. Des grappes humaines s'étaient lancées contre les barreaux, s'y suspendaient, gesticulaient, des poings menaçants passaient entre les grilles, des bouches hurlaient. « Bandits ! Assassins ! Misérables chiourmes ! Tuez-nous ! Mais nous en avons assez ! Ou débarquez-nous tout de suite, nous ne voulons pas de votre pitié !» Et autres exclamations, interjections, rugissements et fureurs. La batterie basse, se doutant de ce qui se passait, mêlait ses colères retentissantes à la révolte d'en haut. Comme des animaux féroces, dont la cage est décuplée de ce qu'elle se heurte à un rempart infranchissable, ils pantelaient, bavaient, se roulaient d'impuissance contre les grilles. Barachon lui-même avait perdu tout sang-froid, toute dignité dans sa captivité. Ce n'était plus qu'une bête comme les autres, toutes les autres, qui eussent voulu déchirer les belluaires. Le spectacle était atroce et tragique, et se répétait partout, à côté, derrière, dans toutes les cages. Les visiteurs s'enfuirent, épouvantés, et Chéri Bibi lui-même les suivit en se bouchant les oreilles. Ce fut une galopade vers le pont supérieur, pendant que les nouveaux gardes chiourmes, criant aussi fort que leurs anciens geôliers, implorait l'ordre de Chéri Bibi de tout massacrer. Chéri Bibi était arrivé sur le pont. Là, il respira, revit avec joie la lumière, l'éclat du ciel et des eaux, et sentit, comme il ne l'avait jamais éprouvé jusqu'alors, le bonheur de vivre. « Les pauvres bougres, donnez-leur double ration » fit-il. Chapitre 11. Une petite fête de famille. Ces dames étaient arrivées sur le pont dans un état de frayeur dont elles furent quelque temps à se remettre. « Oh ! » souffla Madame d'Artigues. « C'est épouvantable ! Les avez-vous entendus ? Les avez-vous vus ? J'ai cru qu'ils allaient nous dévorer !»« Et cette invention ? » dit Mademoiselle de Valrieux en se laissant tomber sur un banc. Cette invention qu'ils ont trouvée de vouloir se faire passer à nos yeux pour... Ça, coupa court Carmen de Fontainebleau, ça, c'est le plus extraordinaire de tout. Si c'était vrai... Oh, ça, est-ce que vous devenez folle, chère amie ? Interrompit Robert Bourrelier. Dites donc, vous d'abord, tâchez d'être poli. En tout cas, vous prétendez ce que vous voudrez. « Mais ce Chéri Bibi là, moi, je ne le connais pas. Vous l'avez reconnu, vous, mesdames ? Voyons, sa tête a été dans tous les journaux. Est-ce que ça lui ressemble ?»« Ma foi, » dit Madame d'Artigues, « entre nous, le commandant lui ressemble beaucoup plus. »« C'est exact, » fit Mademoiselle de Valrieux en frissonnant. « On dirait Chéri Bibi tout craché. »« Ah, je ne vous l'ai pas fait dire !» murmura Carmen de Fontainebleau. « Mais tenez, depuis le déjeuner, je me dis, c'est étonnant comme ce commandant-là ressemble à Chéri Bibi. Mon Dieu, si c'était vrai, si c'était vrai, qu'est-ce que nous deviendrions ?» Et elle était toute pâle, et ses deux compagnes se mirent à trembler comme elle. Il fallut que Robert Bourrelier leur démontrât, leur fit toucher du doigt leur folie. « Voilà bien les femmes !» disait-il. « Elles seront toujours victimes de leur imagination. Le naufrage ne leur suffit pas. Il leur faut encore des aventures avec des forçats. Ah, ça, vraiment, est-ce que vous perdez la tête ? Voulez-vous nous faire une autre figure que ça ? Si le commandant arrivait, je ne manquerai pas de lui dire les causes de votre inquiétude pour qu'on s'amuse un peu. La photographie dans les journaux. Voyons, parlons sérieusement. » Le commandant a dit lui-même que son portrait avait passé à côté de celui de Chéri Bibi. Vous prenez l'un pour l'autre. Vous confondez les deux physionomies. Il porte les cheveux ras comme beaucoup d'hommes de mer. Et Chéri Bibi aussi. Et là-dessus, vous voilà parti. Si tous ceux qui se font raser les cheveux doivent aller au bagne ou en sortir, Paris, l'été, serait une succursale de Cayenne. Et l'on pourrait croire que dans la belle saison... on ouvre les portes de toutes les maisons centrales. Allons, mesdames, soyez raisonnables. Regardez la belle discipline qui règne à bord, comme tout cet équipage est gai. Rappelez-vous comme vous avez été reçus aimablement. Mais si tous ces gens-là étaient ceux que vous craignez qu'ils soient, je n'ose même pas vous dire ce qu'ils seraient advenus de vous depuis que vous avez mis les pieds sur ce bâtiment hospitalier. M'entendez-vous un peu ? Ça, c'est vrai, dit Madame d'Artigues, qui ne demandait pas mieux au fond que d'être convaincue. Nous sommes folles. Sûr que des forçats n'iraient pas par quatre chemins, émit Nadège.
La journée n'est pas finie, crut devoir faire remarquer la tremblante Carmen.
Elle ne fait que commencer, mesdames,
prononça une voix derrière elle. Elles se retournèrent et se trouvèrent en face de trois officiers qui les saluaient le plus galamment du monde. La relingue, en liberté, venait de leur envoyer la fleur des pois. Un faux en écriture publique, un empoisonnement distingué et une escroquerie compliquée d'abus de confiance au détriment d'une société bien pensante. Ces dames furent agréablement impressionnées par la correction de tenue, par les gants blancs, par le joli sourire mondain des trois canailles. Celui qui avait déjà parlé et dont la voix était charmante continua.
« Oui, mesdames, la journée ne fait que commencer pour nous, puisque la fête va s'ouvrir sous vos gracieux auspices. La comtesse vous attend pour ouvrir le bal. Si vous nous permettez cet honneur, nous aurons celui de danser ensemble le premier quadrille. »
La comtesse, elle l'avait oubliée.
Oui, oui, décidément, elles étaient bien folles. Si elles s'étaient rappelées une seconde la grâce et la distinction de cette grande dame qui les avait prises sous sa protection à son bord, elles n'auraient certainement pas eu tant d'imagination. Et elles en rirent, et Robert Bourrelier voulut bien rire avec elles. À quoi songeait-elle, mon Dieu ? Et ces jeunes gens, si braves et si polis, si corrects et qui s'exprimaient si bien, elles étaient déjà toutes les trois debout et elles minaudèrent. La fête ? Ah, messieurs, pardonnez-nous, mais nous l'avions oubliée. Nous ne savons pas si nous osons. Madame la comtesse a fait toilette, certainement,
gémit l'exquise Carmen de Fontainebleau.
Que non pas, mesdames, que non pas. La comtesse, comme toutes les grandes dames, adore la simplicité. Elle est venue telle qu'elle. Et puis, vous savez, c'est une petite fête de famille.
Ils offraient leurs bras. Elles ne se firent point prier davantage, et tout à fait rassérénées, elles suivirent leur cavalier.
On dit qu'il n'est point de meilleurs danseurs au monde que les marins,
susurra la belle madame d'Artigues. Le faux en écriture publique courba élégamment la tête et Modeste protesta.
« Un poète a dit cela aussi, madame, des bouviers allemands. »
Et il scanda avec une science délicate les jolis vers.
« Du Musset, mais c'est du Musset ! Oh, j'adore Musset !»«
Comme ça tombe, madame !» Moi, je le sais par cœur. On arriva au gaillard d'arrière, qui était fort joliment décoré, et où une foule bien sage attendait les premières mesures de l'orchestre. La comtesse vint au-devant de ces dames et leur fit de grands remerciements de leur bonne grâce et volonté. Devant l'orchestre, un espace assez vaste était libre où l'on dansa le premier quadrille. On se serait cru dans un salon, ou plutôt dans un casino, au bord de la mer, naturellement. Cependant, dès la première polka qui suivit, les nouveaux venus ne purent s'empêcher de remarquer la liberté un peu grande avec laquelle les hommes traitaient leurs danseuses, et aussi l'attitude peu convenable de ces femmes, qui s'interpellaient dans un langage que les amis du marquis du Toucher ne comprenaient pas toujours. Elles demandèrent à la comtesse et leur cavalier quelques explications, lesquelles leur furent fournies en abondance. L'élément féminin, leur dit-on, était surtout représenté par des femmes de surveillants militaires qui accompagnaient leurs maris partout et qui avaient pris nécessairement au contact de la chiourme l'habitude d'un argot regrettable. De plus, les promiscuités du bord et l'entassement nécessaire dans l'entrepont avaient eu pour résultat de resserrer les liens de la grande famille, si bien que presque tout le monde, hommes et femmes, avait fini par se tutoyer. De fait, on était bien gai et on s'en lançait de raide, de couple à couple.
Entre les danses, il y avait une débandade générale vers les buffets qui étaient mis au pillage. Les naufragés constatèrent la générosité du commandant, qui faisait couler dans les verres les liquides et les liqueurs les plus variés. Certains buvaient à même les bouteilles. On commençait de se battre autour des paniers de champagne. Puis la musique reprenait avec une rage nouvelle, et les couples se remettaient à danser avec des bondissements, des bousculades, des crises et des physionomies qui apparurent soudain dans leur allégresse alcoolique effrayante. Enfin, c'était cet extraordinaire mélange de tous les grades dans une fête qui tendait de plus en plus à devenir crapuleuse, qui dépassait la compréhension des nobles invités. Depuis quelque temps déjà, elles eussent voulu partir, mais on ne leur en laissait ni le loisir ni le moyen. Elles étaient toujours ramenées vers le centre de cette foule en liesse, dans le moment même qu'elles essayaient d'échapper à ces remous. Et puis, c'était des invitations qu'elles n'osaient et ne pouvaient refuser. Et entraînées par des bras auxquels il était bien difficile de résister, elles reprenaient leur place dans le tourbillon. Gueule de bois avait une façon de serrer sur son cœur Madame d'Artigues qui finit par épouvanter cette dernière. Carmen de Fontainebleau et Nadège de Valrieux, qui avaient commencé par s'amuser comme de petites folles, s'effaraient maintenant de certaines privautés. Haletantes, elles demandèrent toutes trois qu'on leur permît de se retirer. Et elles ne comprenaient point que Madame la Comtesse continuât de danser parmi cette tourbe et consentit à recevoir les orions brutaux des couples en état d'ivresse manifeste, sans protester. Non, cette comtesse était vraiment extraordinaire. Elle tournait, le sourire sur les lèvres avec de gracieux petits coups de tête à l'adresse de ces dames, quand le hasard des contredanses les faisait glisser près d'elle. Elle ne voyait donc pas ces figures terribles autour d'elle? Elle ne sentait donc pas que ça allait finir dans le vilain, cette histoire-là? Sur ces entrefaites, l'officier de marine, qui connaissait Musset par cœur et qui avait commencé à réciter Rolla à Madame d'Artigues pendant la première valse, survint et apprit à ces dames qu'on ne les laisserait pas partir comme cela, que leur grâce et leur élégance avaient conquis tous les cœurs et que la fête serait découronnée sans elles. La fleur des pois s'exprimait toujours dans des termes si choisis que ces dames ne se sentaient point le courage de rien lui refuser. Cependant, cette fois, la cohue, le bruit, la rumeur bestiale prenaient autour d'elles des proportions telles qu'elles avouèrent à l'officier qu'elles n'osaient pas rester plus longtemps parce qu'elles avaient peur. Oui, tous ces hommes leur faisaient peur. Enfin, elles étaient fatiguées par les émotions du naufrage, et l'on pouvait vraiment avoir un peu pitié d'elles. Sur quoi le faux en écriture publique s'inclina et leur dit « Il y aurait bien un moyen pour qu'ils vous laissent partir. C'est que ces dames, » il montrait Carmen et Nadège, « exécutent tout de suite le numéro qu'elles nous ont promis. Tant que vous n'aurez pas dansé sur l'estrade comme ils s'y attendent, ils ne voudront rien savoir. Dansez tout de suite et vous pourrez disparaître après. Voulez-vous que je vous annonce ?» Carmen et Nadège se consultèrent du regard. Leur parti était pris. Oui, elles allaient monter sur la scène, et après on leur ficherait sans doute la paix. Moi, je leur dirais la grève des forgerons, fit Nadège. Et moi, je leur danserai mes deux premières valses d'amour, déclara Carmen. Et vous, madame, demanda la fleur des pois à Madame d'Artigues, nous ferez-vous l'honneur? « Oh, monsieur, je ne suis pas une artiste. »« Enfin, vous voudrez bien paraître sur l'estrade, car ils y comptent bien. »« Mais votre équipage, monsieur, est vraiment extraordinaire. »« Oh, vous savez, madame, à la bonne franquette, comme on dit. »« Évidemment, il manque un peu de délicatesse. »« Mais ce sont de si braves gens, allez. »« Ils sont seulement un peu méchants quand ils deviennent un peu sous. » « Voilà pourquoi je vous conseillerais de ne pas tarder à leur donner la comédie. »« Oui, finissons-en, » dit madame d'Artigues, et le plus tôt possible. C'est incroyable qu'on les laisse boire comme cela à bord d'un navire de l'État. C'est inimaginable. Tenez, regardez ces têtes et la façon dont ils vous dévisagent. C'est honteux.
Venez avec moi, mesdames, ordonna la fleur des pois. Et il les entraîna derrière l'orchestre où la troupe de comédiens commençait de s'habiller et de se maquiller pour on ne savait quelle extraordinaire farce. Un coin de tente dressé en coulisses fut mis à la disposition de ces dames, pour le cas où elles auraient besoin de se recueillir ou de s'embellir avant d'entrer en scène, laquelle venait d'être débarrassée de son orchestre. Les instrumentistes placés sous la rampe, ce fut Boule de Gomme qui annonça que le théâtre allait commencer et qu'on allait voir immédiatement Mademoiselle Nadège de Valrieux de l'Odéon de Paris et Mademoiselle Carmen de Fontainebleau des Folies Bergères, également de Paris, et aussi une dame du monde, amateur dans leurs différents exercices. Aussitôt, dans un profond silence, commença la grève des forgerons. L'équipage l'écouta jusqu'au bout, sans broncher, et quand ce fut fini, le public, après avoir applaudi, cria à Mademoiselle Nadège qu'il fallait danser. Évidemment, la salle préférait la chorégraphie à la littérature. Pour sauver d'embarras Nadège, Carmen parut. Elle dansait à l'ordinaire son numéro à peu près nu et avec le seul secours d'un voile. Pour la circonstance, elle avait jeté à la hâte sur son costume un flottant peignoir que lui avait prêté la comtesse. Dès les premiers pas, elle fut applaudie et encouragée par de chaleureuses phrases d'argot qui vinrent fouetter son entrain naturel. Surtout, elle voulait se dépêcher. Elle n'en parut que plus ardente, et en vérité, prise une fois de plus par le démon de son art, elle se lança éperdument dans ses valses d'amour dont les airs populaires étaient repris en chœur par le public des forçats, sentimental. Dans le désordre de sa danse païenne, elle montrait ses jambes, qu'elle avait admirables, et son succès fut colossal. Elle ne s'arrêta qu'exténuée et se rejeta derrière la toile au milieu des cris et d'un enthousiasme presque farouche. « Et maintenant, allons-nous-en, » dit-elle, « il n'est que temps. J'ai cru un moment qu'ils allaient bondir sur la scène et m'emporter. »« Oui, oui, fuyons !» dit en tremblant madame d'Artigues. « Savez-vous ce que j'ai entendu tout à l'heure pendant que vous dansiez, Carmen ? Un de ces hommes-là, avec son abominable tête de forçat, disait à une autre tête de forçat, car ils ont tous l'air de forçat, tous. « Elle allume, la petite !»« Des trois, c'est encore celle-là que je voudrais qu'il me tombe au sort. »« Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, une phrase pareille ? Moi, je crains tout de ces hommes-là. J'ai envoyé chercher le marquis. Pourquoi n'est-il pas ici ? Et monsieur Bourrelier ? Et mon mari ? C'est vrai ? Où sont-ils ? Pourquoi les hommes ne sont-ils pas avec nous ? Demandèrent de plus en plus anxieuses les deux autres. Et le commandant ? Où est-il ? Si encore le commandant était là ? Allons donc, le commandant me fait encore plus peur que les autres, avoua madame d'Artigues. Ah, vous voilà de mon avis maintenant, constata Carmen en achevant hâtivement de se rhabiller. Vite, vite, fichons le camp. Rentrons-nous enfermés dans nos cabines. Mais comment passer maintenant ? Écoutez-les, c'est comme si nous étions assiégés. En effet, on criait de plus en plus fort. On voulait revoir les artistes. Et Boule de Gomme et Petit Bon Dieu apparurent. Petit Bon Dieu dit « Ne sortez pas surtout, restez ici, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive malheur. Ils sont sous, voyez-vous, ils veulent tous vous embrasser. » « Mais c'est horrible !»«
Horrible, madame !» ricana l'autre, sinistre. À ce moment, elles entendirent la voix de l'officier Gueule de Bois qui faisait annoncer sur la scène « Camarades, ces dames sont fatiguées et vous prie de les excuser. » Hurlement. « Je vous en prie, soyez raisonnables. Encore un peu de patience. La troupe spéciale du Bayard va continuer le spectacle et la tombola sera tirée immédiatement après. » À cette dernière partie de l'annonce, les trois femmes se regardèrent avec des yeux étranges. Elles n'osaient se communiquer autrement l'angoisse affreuse qui les étreignait. Cependant, Madame d'Artigues, s'efforçant de paraître calme, demanda à un officier « Vous avez beaucoup de l'eau pour la tombola ?»«
Non, madame, » répondit l'officier, « nous n'en avons pas beaucoup, mais ils sont magnifiques. »
Chapitre 12. Le fond de l'abîme. Chéri Bibi, en sortant des bagnes, était rentré chez lui, très occupé de la nouvelle attitude de ses prisonniers, et se rendant parfaitement compte que la petite comédie qu'il jouait vis-à-vis des naufragés touchait à sa fin. Prompt dans ses décisions comme il sied à un homme d'action, il manda Gueule de Bois et donna des ordres concernant les dames pour la fin de la petite fête, dont il entendait déjà au-dessus de sa tête les flonflons. Cela leur apprendra à mal parler de Cécilie. L'affaire réglée de ce côté, il renvoya Gueule de Bois en lui ordonnant de lui expédier la ficelle. Comme la ficelle tardait à venir, il entr'ouvrit, impatient, la porte de son carré et aperçut deux hommes qui ne le virent point et qui, se croyant seuls dans cette partie de l'entrepont, devisaient ensemble de leurs petites affaires. C'était le baron Proskoff et le mari du Touchet. Il pensa qu'ils s'entretenaient de l'incident imprévu de la promenade au Jardin des Plantes et des inquiétantes réflexions que la révolte des prisonniers avait pu leur suggérer. Chéri Bibi se trompait. Il ne connaissait point ces hommes. Il parlait femme. Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion, depuis l'arrivée des naufragés sur le Bayard, de faire remarquer la tristesse du baron Proskoff. Cette attitude mélancolique était tout à l'honneur du brave gentilhomme polonais, puisqu'il n'y avait pas plus de 2 ou 3 jours que la baronne, sa précieuse épouse, était morte, ou du moins qu'il la croyait telle. Proskoff paraissait inconsolable. C'est en vain que Maxime du Toucher lui-même avait tenté de le sortir de son chagrin, en lui représentant que si quelqu'un dans cette affaire avait à se plaindre, c'était bien lui, du Touchet, qui faisait une perte sèche, tandis qu'il restait au moins au baron le million. Dans le moment que leur conversation était surprise par Chéri Bibi, le baron Proskoff se répandait en éloges sur la défunte. « C'était une femme d'une intelligence supérieure, que je ne remplacerai jamais, ni vous non plus, mon cher marquis, quoi que vous tentiez. » Cette petite d'Artigues me fait pitié. La belle Diépoise, comme on disait, n'en eut point voulu pour dénouer les cordons de ses souliers. C'est bien mon avis, mon cher baron, mais que voulez-vous? Il faut être raisonnable. Je suis encore trop jeune pour faire une fin. Savez-vous ce que je ferais, moi, à votre place? Dites toujours. Eh bien, je rentrerai le plus tôt possible auprès de ma femme. Et j'attendrai là, bien tranquillement, d'être sûre que la baronne est morte. Car enfin, nous ne sommes sûrs de rien, absolument. Voyons, marquis, votre femme est charmante, et je suis certain qu'elle sera enchantée de vous revoir. Ce n'est point ce que disent ces dames, vous les avez entendues à table. Comment, vous prenez note des discours de ces péronnelles? N'êtes-vous point sûr des vertus de la marquise? « Sûr de quoi? On ne sait jamais avec les saintes !» ricana le marquis. Le reste de la conversation fut perdu pour Chéri Bibi. Au surplus, il eût été incapable d'en entendre davantage. La ficelle le trouva pâle comme un linge, affalé sur son divan. « Tu es malade, Chéri Bibi ?» s'exclama le dévoué Mitron. « Veux-tu que j'aille chercher le canaque ?»« Non, sa femme d'abord !» fit entendre Chéri Bibi dans un souffle. « La comtesse ?»« Oui, la comtesse, tout de suite !» Avertie immédiatement par la ficelle, la comtesse descendit entre 2 bostons. Elle s'inquiéta tout de suite du mauvais état dans lequel elle trouvait son commandant.
« Ferme la porte !» dit Chéri Bibi.
« Mais enfin, qu'y a-t-il ?»«
Quelque chose !»
Il se leva, se plongea la tête dans une cuvette et, s'étant ainsi rafraîchi les idées, il parut aller beaucoup mieux. La comtesse le regardait se tamponner le front avec sa serviette et ne comprenait toujours point.
« Écoute !»
fit l'autre brusquement en s'asseyant auprès d'elle et en lui prenant les deux mains.
« Écoute bien, je sais que tu m'aimes, la comtesse. »«
Oui, » fit-elle simplement et tristement, « mais toi, tu ne m'aimes pas. »«
Je vais te dire, la comtesse, tu es arrivée trop tard, vois-tu, la place était prise. »
Je m'en suis toujours douté. Ce sera le malheur de ma vie.
Parlons peu, mais parlons bien, la comtesse. Puisque tu m'aimes, es-tu prête à faire quelque chose pour moi?
Tout ce que tu voudras.
Oh oui, mais quelque chose,
tout ce que tu voudras.
Eh bien, d'abord, tu vas me dire ce que vous faisiez, le canac, et toi, des lanières de chair que vous découpiez sur le client.
« Oh, ça ?»
fit-elle. Et elle lui glissa dans les mains et elle se leva.
« Ah, tu vois bien qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire pour moi. »
Elle s'était réfugiée dans un coin, comme si elle avait eu peur maintenant de Chéri Bibi, et elle n'osait plus le rejoindre. Et elle dit d'une voix basse et sourde,
« Je sais bien ce qu'on raconte. »«
C'est vrai ? Dis-le-moi ! À moi ! À moi ! C'est vrai ?» implora Chéri Bibi. Elle secoua la tête, farouche et si brutalement que ses admirables cheveux se dénouèrent, roulèrent en flots noirs sur ses épaules.
« Non, non » râla-t-elle. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai !»«
Ça a été dit en cour d'assises. »«
Ah, ça non plus, ça n'est pas vrai » grinça-t-elle.
« Non, non, on n'a pas osé, on n'a pas osé !» Le gerbier a bien jacté un peu, mais il a fermé tout de suite son plomb. Tout de suite. Notre avocat lui a dit qu'on n'avait pas le droit de laisser même entendre de loin une chose pareille. Quand on n'en était pas sûr, quand on n'avait pas de preuves. Et ça a été fini, tout de suite. Ah, si tu avais vu la salle, il y avait des femmes qui se trouvaient mal rien qu'à l'idée de ça. Chéri Bibi, je t'aime et je ne te mentirai pas. « Je te le dis encore à toi, nous n'avons pas fait ça. »
Elle se laissa retomber sur le divan à côté de lui et voulut qu'il reprît ses mains dans les siennes. Mais ce fut au tour de Chéri Bibi de se lever. Il arpenta de long en large le salon, pensif, puis s'arrêta en face d'elle.
« Tant pis, » fit-il.
« Comment, tant pis ?»«
Oui, tant pis. » J'avais rêvé de vous donner quelqu'un à manger.
Je sais qui, dit-elle en se levant et en s'accrochant à lui. C'est le marquis. J'ai bien cru pendant le déjeuner que tu allais le buter.
Ah non, pas ça. C'est trop aimable. Vois-tu, la comtesse, quand je pense à lui, je deviens fou. Je voudrais inventer des supplices. Des supplices. Ah, j'avais cru tout ce qu'on disait du canac. J'avais pensé... « Enfin, n'en parlons plus, puisque ça n'est pas vrai. »
La comtesse était devenue toute pensive. « Qu'est-ce qu'il t'a fait, cet homme-là » demanda-t-elle.
« Il m'a arraché le cœur, comprends-tu ?»«
Ah, oui.
Et puis, il est trop gras, trop fort, trop bien portant, trop heureux. Tout lui réussit. Il désire une femme, il jette 1 million. Tout lui appartient. C'est un monstre. »
« Oui, oui, je te comprends. Je te comprends. Il est bien riche ?»«
S'il est riche, 1 million, 1 million, 1 million !»« À quoi penses-tu ? Pourquoi détournes-tu la tête ? Pourquoi tes joues sont-elles si pâles et tes yeux si sombres ? Qu'est-ce que tu as ?
Rien, rien.
Je veux savoir à quoi tu penses.
À rien, à rien, chérie Bibi.
Mais si, tu as une idée. » Je te dis que tu as une idée. J'en ai vu passer le frisson sur ton front obscur. La comtesse, donne-moi ton idée.
Jamais. C'est trop terrible.
Ah, tu vois bien. Je veux connaître ton idée. Jamais je n'oserais te la dire. Toi-même, tu la repousserais. Oui, toi-même, chérie Bibi, tu trouverais mon idée trop terrible. Et puis, ça n'est pas seulement mon idée. C'est surtout notre secret à Kanak et à moi. Un secret auquel nous tenons. Parce que, vois-tu, il y a l'échafaud au bout. Alors, tu comprends maintenant que je ne puis rien te dire.
Je vois que tu veux me faire languir. Tu joues avec ma soif. Tu ne m'aimes pas, la comtesse.
Plus que tu ne crois, chérie Bibi. Et c'est justement parce que je t'aime que tu ne sauras rien.
Alors, c'est plus terrible que ce que j'aurais pensé.
Plus terrible que quoi?
Plus terrible que les lanières de chair qu'on mange.
La comtesse ne répondit pas tout d'abord. Son émoi était indescriptible. Elle fuyait le regard de chérie Bibi. Enfin, elle laissa échapper dans un souffle.
« Oui, oui, c'est pire que ça. Ah, laisse-moi, laisse-moi. »
Chérie Bibi la prit dans ses bras et elle ne fut plus qu'une pauvre chose défaillante. Elle ne résistait plus à son désir de savoir. Elle le renvoyait seulement au Kanak.
Moi, je veux bien. Écoute, mon chéri Bibi, je veux bien que tu saches. Je ne m'opposerai pas à ce qu'ils te disent l'affreuse chose devant laquelle tu reculeras, j'en suis sûre. Mais si tu parles jamais, chéri Bibi, tu feras tomber nos deux têtes. Je te donne la mienne. Je te donne la mienne. Prends-la.
Et elle lui donnait sa tête belle et si pâle, et ses lèvres si blêmes, qu'elles ne l'eussent point été davantage si déjà le bourreau en avait pris tout le sang. Mais lui, qui ne songeait qu'à sa vengeance, ne voulut point s'apercevoir du cadeau qu'on lui faisait. Il dit « La comtesse, va chercher le Kanak. » Elle roula sur le canapé, étendue dans une pose de désespoir, la tête échevelée dans ses mains réunies comme une madeleine qui pleure sa faute. Et puis elle se redressa, regarda une fois encore chérie Bibi avec ses yeux hagards et dit « J'y vais ». Mais auparavant, elle s'arrêta devant une glace et remit de l'ordre dans sa coiffure. Puis elle quitta chérie Bibi en courant. 5 minutes plus tard, le Kanak faisait son entrée. Lui, il était jaune et il avait du sang dans ses yeux. Il était seul.
« Où est la comtesse ?» demanda chérie Bibi.
« Elle est retournée à la danse, » répondit le Kanak, qui ne quittait pas des yeux chérie Bibi.
« Et nous, où en sommes-nous ? » ?»«
Nous repiquons sur le golfe de Guinée. Tout est préparé pour cette nuit. Les épaves sont prêtes. On jettera ce qu'il faut par-dessus bord pour qu'on nous croie perdus corps et biens. Enfin, dès demain, à la première heure, on procédera au maquillage du navire. »
Crois-tu qu'il nous sera facile de refaire du charbon et des provisions sans danger à Cape Town?
Tout ce qu'il y a de plus facile, puisque nous avons le commandant, et que nous resterons sur rade seulement une nuit.
Et ensuite, quel drapeau arborerons-nous?
C'est à voir. Moi, j'opterai pour celui de la République argentine. Nous sommes une quarantaine à bord qui parlons couramment l'espagnol. Et puis, comme nous ne nous arrêterons nulle part, on n'a pas à venir mettre le nez dans nos affaires. Une fois en Malaisie...
Dis donc, le Kanak, qu'est-ce que tu as? Tu me parais malade.
La comtesse m'a parlé, chérie Bibi.
Eh bien...
Allons, décide-toi. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi?
Quelque chose de formidable, chérie Bibi. Mais c'est toi qui ne voudras pas.
Dis toujours...
« Si tu as jamais la langue trop longue, chérie Bibi, nous sommes, la comtesse et moi, fichus, dans le cas qu'il faut toujours prévoir où l'on retomberait dans la civilisation. »«
Me prends-tu pour un mouton ?»«
Non, bien sûr, mais il faut être prudent. Et puis, je vais te dire, ça peut bien ne pas réussir. »«
Je ne te comprends pas bien, le Kanak, ou plutôt je ne te saisis pas du tout. Mais en tout cas... « Dis-moi, on souffre bien ?»«
Ah, si on souffre, je te crois qu'on souffre. Je suis même à peu près certain que tu trouveras que l'on souffre trop. »«
Tu ne me connais pas encore, le Kanak. Si tu savais combien j'ai besoin que l'on souffre,
Va, je t'écoute. » Mais l'autre s'en fut au bout du salon, se prit le front dans les mains et puis parut terriblement réfléchir. Chéri Bibi ne le troubla pas. Enfin, le canaque releva la tête. Sa figure était plus jaune que jamais et ses yeux roulaient du sang. Il était épouvantable à voir. On eût dit qu'il était déjà en proie à quelque surexcitation mi-cérébrale, mi-physiologique, qui en faisait une bête, horriblement. Il traversa tout le salon en titubant un peu, allongea les bras, prit Chéri Bibi aux épaules, regarda à droite et à gauche si toutes les portes étaient bien fermées, et se pencha tout près de l'oreille du bandit. Et lentement, lentement, avec des arrêts et des soupirs, des repos, des reprises, il lui versa dans l'oreille la liqueur démoniaque de son secret. Chéri Bibi, à son tour, semblait entrepris par une ivresse maladive. Ses épaules frissonnaient, ses mains tremblaient, ses yeux devenaient énormes. La sueur glissait en gouttes lourdes sur son front d'airain. Enfin, l'autre se tut et recula en croisant les bras. Et Chéri Bibi aussi croisa ses bras, et ils restèrent ainsi 10 minutes à se contempler en silence. Et puis Chéri Bibi s'enfuit en refermant la porte sur le canaque qui continua d'attendre, debout, les bras croisés, dans une immobilité de statue. Quant à Chéri Bibi, il fut en quelques bonds, digne d'un tigre, sur le pont. Il avait besoin d'air et besoin de réfléchir. Les flonflons, les chants, les cris et les danses du gaillard d'arrière le chassèrent vers le gaillard d'avant. Et là, seul, devant la mer et le ciel, il tourna sur lui-même et sur sa pensée. Il marchait en rond, haletant, et pensait en rond autour du secret du canaque qu'il avait voulu connaître et qui le tentait maintenant, comme l'empire du monde avait tenté le mauvais ange. Il leva les yeux au ciel, comme il faisait souvent quand il s'adressait à la destinée, au fatum qu'il sentait toujours suspendu sur sa tête, et, pesant de tout son irrésistible poids sur ses épaules. Son aventure était si prodigieuse qu'il la croyait, dans son orgueilleuse naïveté, la seule et grande préoccupation du temps et de l'espace. Il ne connaissait point de plus remarquable malheur héroïque que le sien. Et, dans son âme cruelle mais enfantine, il s'apparentait à ces maudits de l'histoire primitive des hommes, que l'on donnait jadis à lire dans les écoles, et qui sont toujours en contact avec le Dieu Tout-Puissant, soit qu'ils essaient de l'atteindre en entassant montagne sur montagne, soit qu'ils essaient de le fléchir en lui offrant des sacrifices épouvantables. « Pourquoi m'envoies-tu encore cette épreuve ? » demanda-t-il tout haut à quelqu'un qu'il avait l'air de considérer comme son plus cruel ennemi. « Tu sais bien que je n'y résisterai point. La pensée seule de la tenter me brûle comme une robe de flamme. » Et il recommença sa course circulaire insensée pour l'arrêter quelques instants plus tard et reprendre son extraordinaire monologue. Mais cette fois, c'est au canaque que s'adressait son ardente prosopopée. « Canaque, tes paroles se font bien entendre, un enfant même les comprendrait. Mais une sanglante morsure déchire mon âme. L'espoir me tient désormais aux entrailles avec sa gueule de chien. » Et il courut encore comme un échappé des petites maisons. Puis il s'arrêta encore, rugissant, écumant. « Chéri Bibi, chéri Bibi, d'où viennent ces transports subis, ces angoisses sans objet apparent? Pourquoi ce cri de terreur et d'horreur auquel tu donnes le doux nom d'espoir? Sur ta dunette, entre le ciel et les eaux, tu apparais aussi formidable, aussi menaçant, mais aussi craintif que Satan sur la montagne, avant qu'il eût tenté Jésus. Et puis brusquement, tu dégringoles, tu te replonges, tête baissée, dans l'enfer où t'attend le canaque, immobile. » Chéri Bibi poussa la porte derrière laquelle était cette statue qui n'avait besoin que d'un mot pour s'animer. et ce mot, il le lui jeta. « Allons, » dit-il. Le Kanak décroisa aussitôt ses bras, tendit une main à Chéri-Bibi qui la lui saisit avec fièvre, et ils se séparèrent sans plus. En haut, la petite fête, comme on dit, battait son plein. Mesdames d'Artigues, de Valrieux et de Fontainebleau, sous leur tente, étaient dans un état d'esprit qui voisinait de plus en plus avec l'épouvante, car elles se rendaient compte qu'elles étaient parfaitement prisonnières, en dépit des étranges paroles de politesse que de plus étranges officiers de marine venaient, de temps à autre, leur prodiguer. Elles avaient, en vain, essayé de s'esquiver. Mais, sous le prétexte que la surexcitation de l'équipage ne faisait que grandir, et qu'il eût été dangereux pour elles de tenter une sortie, on ne leur permettait plus un mouvement. Des clameurs sauvages, des chants immondes venaient jusqu'à elles et les jetaient, effrayées, aux bras les unes des autres. Elles avaient réclamé à grands cris le marquis et le baron, et Robert et Monsieur d'Artigues. Enfin, elles eurent le soulagement de voir apparaître Robert Bourrelier et Monsieur d'Artigues. Mais leur joie fut courte. Ceux-ci étaient aussi effrayés qu'elles par tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Après la révolte des cages, en bas, devant Chéri-Bibi, ils avaient résolu de se faire une idée un peu nette de leur situation, et dans ce but, s'étaient glissés dans certaines parties du bâtiment dont il semblait qu'on les eût précédemment éloignés à dessein. Il leur avait été donné alors de voir des choses bien singulières. D'abord, un désordre incroyable, une indiscipline régnante, et surtout, ils s'étaient heurtés à un cordon de garde-chiourme qui empêchait de pénétrer dans des couloirs et des cabines d'où sortaient des cris et des gémissements de femmes et d'enfants. Des enfants qui réclamaient leur père, des femmes qui réclamaient leur mari. Comme ils demandaient des explications, on les avait chassés, et on avait ricané derrière eux, d'une façon sinistre, et on leur avait conseillé, pour leur bien, de se montrer un peu moins curieux à l'avenir. Ces messieurs en étaient là de leur tremblante confidence, quand le baron Proskov survint à son tour. Celui-ci paraissait si effaré qu'il ne put tout d'abord prononcer une parole. Enfin, on entendit « Le marquis ! Le marquis !»« Quoi, le marquis ?» demanda, anxieuse plus qu'on ne saurait dire, la belle madame d'Artigues. « Eh bien, le marquis a disparu !»«
Comment ? Disparu ?
Oh, sous mes yeux ! C'est inimaginable ! Je croyais qu'il était encore à mes côtés. Nous parlions de choses et d'autres, non loin de ma cabine, dans le couloir, car nous fuyions le pont et cette horrible fête. Et puis tout à coup, je me retourne. Il n'était plus près de moi. Je le cherche, j'entre dans les cabines, je l'appelle. Il me répond. Mais sa voix était déjà lointaine, et il s'est tu tout à coup, comme s'il étouffait. Assurément, il était l'objet de quelque violence. Le malheur est que je ne parvenais point à me rendre compte exactement de l'endroit où il pouvait se trouver. Ce bateau me paraît machiné comme un décor de théâtre. Il se passe autour de nous des choses abominables. Au milieu de quels gens sommes-nous tombés? Ces gardes-chiourmes me paraissent aussi redoutables que les forçats eux-mêmes. Enfin, où est le commandant? On ne peut pas le voir. J'ai voulu parler aux officiers. Ils sont ivres. C'est à grand-peine que je suis parvenue jusqu'ici. Il faut partir d'ici, mesdames. C'est affreux. » À ce moment, la tente se souleva, et deux des trois matelots de la belle Diépoise, qui avaient abordé avec eux le Bayard, se précipitèrent. Leur camarade venait d'être tué d'un coup de couteau en plein cœur par un des bandits du bord auquel il voulait prendre sa danseuse. Et comme ils avaient voulu venger leurs camarades, les autres bandits s'étaient rués sur eux, leur apprenant tout. Le Bayard était aux mains des forçats, et celui qui les avait reçus en qualité de commandant n'était ni plus ni moins que Chéri Bibi, Chéri Bibi lui-même.
Madame d'Artigues s'évanouit. Carmen et Nadège poussèrent des cris de folle. Dans le moment, leur logement improvisé fut envahi par une tourbe hurlante qui les transporta toutes les trois sur l'estrade, où elles furent exhibées à la curiosité et au désir féroce d'un équipage en délire. On allait tirer au sort. Mais il ne faisait point de doute que le sort, pas plus que le reste, ne serait respecté dans cette affaire. Déjà des faces de damnés se penchaient sur les pauvres femmes, des poings les agrippaient, les arrachaient, se les disputaient. La bande écumante des forçats qui n'avaient pu monter sur l'estrade, voyant que ceux qui entouraient les femmes s'en emparaient sans autre forme de procès et ne parlaient plus de loterie, firent entendre des cris de rage et de protestation. Les malheureuses allaient disparaître sous le flot grossissant sans cesse des bandits et mourir étouffées. Quand une catastrophe se produisit, qui les sauva ? Une trombe venait de passer sur cette foule. Sous une poussée terrible, les relingues tombèrent par grappes du haut de l'estrade, laissant un espace libre suffisant pour que puissent se mouvoir et se détendre, avec une force de catapulte, les poings énormes de Chéri Bibi. Ah ! Il était toujours beau dans la bataille, l'affreux Chéri Bibi. Que de nez écrasés, que d'oreilles décollées, que d'yeux pochés, que de sang, de cris, de malédictions, mais quel beau et rapide nettoyage ! On l'acclame. Tous ceux qui n'avaient pu approcher de l'estrade et qui n'avaient conservé aucun espoir de prendre part à la curée lui font un triomphe. Et les autres, qui se traînent maintenant sur le pont, éclopés, sont l'objet d'une risée générale. Ah, la risée de la chiourme ! Chéri Bibi réclame le silence. Il est là, sur son estrade, désencombré, devant les trois tremblantes femmes qui osent à peine bénir leur sauveur. Car enfin, que va-t-il dire ? À quel nouveau supplice vont-elles être vouées ?
Mes chers poteaux, dit Chéri Bibi, j'ai réfléchi. Puisque ces dames ne peuvent être à tout le monde, elles ne seront à personne.
Tonnerre d'applaudissements. Je les garde pour moi. Un froid. À seule fin qu'il ne leur arrive point malheur. Attente glacée. Car je viens de m'engager à déposer sains et saufs, en un temps et en un lieu qui seront fixés dans un prochain conseil, les naufragés de la belle Diépoise. Protestation menaçante, Chéri Bibi se croise les bras.
Qui donc oserait élever la voix quand je me suis donné la parole ?
Silence immédiat.
Les imbéciles font bien de se taire, car j'ai des choses sérieuses à leur dire. Désormais, c'est fini de se mal conduire. Vous devez devenir des gens costauds, calmes et rangés, car vous êtes riches. Le marquis du Touchet, que nous avons eu l'honneur d'accueillir à notre bord, veut bien, cédant à mon initiative, acheter la libération des naufragés de la belle Diépoise, moyennant un prix de 5 millions.
D'abord stupeur, presque une sensation d'effroi devant cet abîme entrouvert. 5 millions ? Vertige ! Et puis on se ressaisit, on comprend, on éclate, on hurle, on trépigne, on danse, on devient fou. On veut porter Chéri Bibi en triomphe. Chéri Bibi a la plus grande peine à placer un mot qui clouera la bouche aux derniers imbéciles, à ceux qui ne comprennent jamais rien.
« Mes poteaux, » crie-t-il, « un dernier mot. Il est bien entendu que nous ne lâcherons le marquis que contre les 5 millions. Ce sera 5 millions ou la mort. »
Délire de l'équipage.
« Eh bien, la ficelle, qu'est-ce que tu dis de ça ?»
demanda petit bon Dieu en détachant une grande taloche sur l'épaule fléchissante du dévoué Mitron.
« Je connais, mon chéri Bibi, »
répond avec un pâle sourire la ficelle.
« Ce sera 5 millions et la mort. »